Les hommes et les femmes, mode d'emploi, Roselyne Fayard.
Auteure, conférencière, formatrice en relations d'aide, Lise Bourbeau est une femme dynamique et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a su développer ses qualités d'entrepreneur. En 1982, elle a créé au Québec un premier cours de développement personnel qui avait pour titre « Écoute ton corps ». Aujourd'hui, « Écoute ton corps » est une grande école de formation qui a aidé des milliers de personnes à améliorer leur qualité de vie. Lise Bourbeau parcourt le monde pour animer conférences et ateliers. Elle a publié à ce jour plus d'une quinzaine d'ouvrages vendus à plus de 3 millions de livres. Elle est donc notre invitée et je suis ravie évidemment de la recevoir. C'est l'occasion de fêter les 30 ans de son institution Écoute ton corps. À la technique aujourd'hui, Lisa Nazariev. Les musiques qui nous accompagnent sont de Nathalie Schauenberg. Bonjour à tous. Bonjour Lise Bourbeau.
Bonjour Rosine.
On va fêter vos 30 ans.
Oui, les 30 ans d'Écoute ton corps.
Vous vous dites évidemment déjà 30 ans.
Ah oui. Oui, puis en même temps, je me dis, c'est comme 30 vies.
C'est vrai.
C'est vrai, hein? Il y a tellement de mouvements, puis tellement de choses qui bougent maintenant à haute vitesse que c'est excitant quand même. Hein?
Alors, le livre dont nous reparlons aujourd'hui, Écoute ton corps, parce que c'est le nom que vous avez donné à l'école, au développement que vous avez fait, et cet accompagnement hein, à travers tous ces ateliers, c'est le nom du premier livre que vous avez publié en 87.
Oui, c'est hein? ça.
Et je l'ai relu pour l'occasion, et là je me suis dit quand même, Lise Bourbeau, vous aviez quand même un ton très moralisateur hein, à l'époque. Quand même, vous trempiez encore beaucoup dans la morale religieuse.
Ouais, ben,
il y avait beaucoup de yaka, de faux que.
Oui, ben, c'était comme ça dans le temps. Hein. C'était comme ça. Bon, moi-même, au fil des années, je me suis transformée. À force d'enseigner l'amour, j'ai appris de plus en plus à être plus tolérante, plus flexible avec moi-même, avec les autres. Donc maintenant, au lieu de dire, ben, il faut que, je vais dire, ben, est-ce que je peux te faire une suggestion?
30 ans pour apprendre ça.
Ah non, Bourbeau. Quand même, j'ai appris ça avant 30 ans quand même.
Vous le ressortez, Écoute ton cœur. Qu'est-ce qu'il a de différent, cet ouvrage?
Oui, alors j'ai tout réécrit. Alors c'est une nouveauté, ça devrait sortir d'ici une ou deux semaines en Europe. Il est sorti il y a quelques semaines au Québec. Je l'ai tout réécrit en l'adaptant à ma façon d'enseigner maintenant, mais quand même, j'ai pas changé la structure. J'ai tous les mêmes chapitres, les mêmes noms, les cinq parties, la partie physique, émotionnelle, mentale. Par contre, j'ai refait ça un peu différemment. J'ai changé des chapitres de place parce que me semblait que ça coulait mieux. Et j'ai ajouté un 22e chapitre sur l'acceptation.
L'acceptation de?
De s'accepter. Comment s'accepter?
S'accepter les autres.
C'est ça.
Ça, c'est une des choses les plus importantes?
Ben oui, parce que c'est vraiment la base de notre enseignement. Hein. Comment s'accepter, s'autoriser à être ce qu'on est à chaque instant, arrêter de vouloir se changer tout le temps, arrêter de se taper sur la tête, arrêter de vouloir changer les autres. Ricochet. Hein? On fait aux autres ce qu'on se fait à soi. Et l'acceptation, pour moi, ça fait des miracles. Hein?
Alors, quand je vous renvoie un peu le ton que vous aviez il y a 30 ans, vous acceptez ce retour quand je vous dis, au fond, Lise Bourbeau, vous étiez peut-être un petit peu...
Oui, oh oui.
Bon, ça ne vous gêne pas quand on
non,
fait
non, parce que moi, j'ai toujours été très rigide. C'était ma blessure principale dans cette vie-ci, l'injustice. Donc, quand on veut que tout soit juste, on est un peu tranchant des fois. Et puis, c'est sûr que...
On est quelques-uns à se reconnaître, là.
Dans le temps, je travaillais même pas avec les blessures. J'avais pas découvert ça, hein. Ça a pris une dizaine d'années avant que je découvre qu'on avait tous des blessures à la naissance et que j'ai commencé à travailler avec ces cinq blessures-là qui sont si importantes.
Donc, cinq façons d'avoir été blessées hein, et qui ensuite vont... au fond, orienter notre vie.
Oui, qui gère vraiment notre vie, parce qu'on a tellement peur d'être soit trahi, abandonné, rejeté, on a peur d'être injuste, qu'on n'est pas nous-mêmes. C'est pour ça que mon livre s'appelle « Les cinq blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes ». Par peur de le faire aux autres, par peur que les autres nous le fassent, donc on n'est pas nous-mêmes. Et par ricochet, ben, comme moi, je voulais tellement être la personne la plus juste au monde que j'étais en réalité très injuste. Injuste envers moi, très mm-hmm. exigeante envers moi. J'écoutais pas mes limites, j'écoutais pas mes besoins, puis aussi très exigeante envers les autres.
Mm. Mm. Comment est-ce qu'on guérit quand on découvre sa blessure de base? Quoique, moi, je me disais, en vous écoutant, on les a toutes un peu tous.
Oui, c'est ça. Oui. On les a toutes, mais à différents niveaux.
On a un petit bout de sentiment d'injustice, un bout de la peur de trahison.
On a toujours une ou deux plus dominantes quand même, des blessures plus dominantes.
Comment vous
avez-vous ? Qui nous font plus mal. C'est ça. Fait que plus ça fait mal, plus la blessure est importante, plus on réagit vite, avec force, parce que ça nous fait mal. Si quelqu'un me touche, moi, j'ai une plaie ouverte, par exemple, et la personne me frappe sur ma plaie ouverte, je vais crier, je vais réagir. Donc, c'est ce qu'on fait en général. On pense que c'est les autres qui nous blessent, mais non, c'est parce qu'ils ont touché une plaie que moi, je n'ai pas encore guérie.
Qu'est-ce que vous avez fait de votre blessure d'injustice? Comment vous l'avez travaillée?
Accepter
que l'injustice fait partie de ce monde.
Voilà, que j'ai toujours été une personne qui a tellement voulu être juste que j'ai fini par être injuste. Et puis j'ai vérifié, c'est drôle parce que il y a longtemps de ça, un jour je suis assise avec mon fils de 17 ans. Aujourd'hui, il a 48 ans. Il avait 17 ans, puis on est assis au restaurant, puis je lui dis, dis-moi Tony, qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile de moi là, jusqu'à maintenant en tant que maman? Il me répond, ton injustice. Oh, je voulais mourir, j'en revenais pas. J'ai dit, comment tu peux dire ça? Mais donne-moi des exemples. Alors, il commence à me donner des exemples. Mais j'ai dit, mais tu as raison, c'est vrai, j'étais injuste. Et puis ça c'était même avant que je découvre que j'avais cette blessure-là. Mais
c'est des questions drôlement dangereuses à poser, hein, Lise
Bourbeau. Ah ben oui.
Parce qu'on pourrait bien avoir des réponses.
Ah, oui, oui. Oui, puis c'est... Ah, oui, si on va avoir la vérité, il faut le demander à nos enfants. Hein. Mais ils vont nous le dire s'ils sentent qu'on veut vraiment l'entendre.
Oui. Ouais. Alors, pour revenir à ces 30 ans d'écoute ton corps, vous avez mis très tôt, tout de suite, en fait, dans ce premier livre, en exergue, être bien, ça s'apprend. Alors ça, c'est c'est une espèce de slogan.
Oui, c'est ça.
Que vous menez et que vous emmenez partout où vous allez. Être bien, ça s'apprend. Ça veut dire quoi et ça vient d'où, cette constatation-là, pour vous?
Ça vient de loin quand même, parce que avant de commencer cet enseignement, j'étais dans la vente pendant 16 ans. Je rencontrais 10, 12, 15 madames par jour. Et de quoi parlent 12 madames ensemble? Ils parlent de leurs problèmes. Problèmes d'argent, problèmes de couple, problèmes de santé, problèmes sexuels. Bon. Puis souvent, je me faisais la réflexion, mais est-ce qu'un jour, ça va arriver que je vais passer une soirée avec 12 madames nouvelles là, que je connais pas, puis juste entendre parler de bonnes nouvelles, puis de projets, puis je voyais que les gens s'enlisaient dans leurs problèmes, puis ils ne pensent qu'à ça, ils ne parlent que de ça, plutôt que parler de bonnes nouvelles. Et moi, dans le temps, j'étais dans la pensée positive et puis plein de projets. Puis,
vous n'avez pas de problème, vous? Vous n'aviez pas?
Dans ce temps-là, j'en avais, mais j'en parlais pas.
Ah, voilà.
Je n'étais même pas consciente. Moi, selon moi, j'étais parfaite.
C'est les autres qui avaient des problèmes.
Oui, c'est eux autres qui étaient imparfaits. Et je ne voyais pas qu'eux autres étaient juste mon reflet dans le temps. Mais moi, j'étais capable de mettre le couvercle dessus puis pas le voir. Hein. Et c'est pour ça qu'au moment où j'ai commencé à faire cette découverte, qui était pour moi le début de ma démarche spirituelle, ça a été tellement un choc à mon égo, puis ça a été des découvertes extraordinaires, que c'est l'année suivante, cette découverte-là, que j'ai fait le rêve qui me montrait que je devais enseigner ça.
Vous avez arrêté les Tupperware.
Oui.
Comment avez-vous passé de la vente au développement personnel?
J'ai tout simplement tout arrêté. Je me suis isolée pendant une semaine dans la maison de campagne de mes parents. J'ai écrit un atelier parce que dans mon rêve, ça me montrait qu'il fallait que j'enseigne tout ce que j'avais découvert depuis le temps là, que je travaillais sur moi. Mais avant ça, c'était surtout dans la pensée positive. Mais maintenant, depuis un an, j'avais fait un lien. J'avais perdu tout le... m'étais libérée du poids extra que j'avais en écrivant tout ce que je mangeais, ce que je buvais. Et là, j'avais découvert en faisant ça à quel point j'étais rigide puis que c'était la cause de mon divorce. Je m'étais divorcée 2 ans avant ça. Les malaises et maladies ont disparu suite à ce que je commence à manger selon les besoins de mon corps, quand j'avais faim, ce que j'avais fait, ce que mon corps avait besoin. Alors, j'ai commencé à faire plein de liens entre les malaises et maladies, la façon de penser, écouter ses besoins, s'aimer davantage. Puis ça m'a montré dans mon rêve que c'est ça qu'il fallait que j'enseigne.
Parce que vous avez fait un rêve qui a été une
étape. Un rêve vraiment prémonitoire, oui. Un rêve très important où je me voyais devant une foule de 1000 personnes. Et puis, c'est 8 ans plus tard que je me suis revue dans cette salle de mon rêve. J'ai reconnu le gros chandelier en cristal. Puis il y avait effectivement 1000 personnes. Moi, j'avais vu qu'il y avait beaucoup de monde, mais je ne savais pas combien dans le rêve, là. On avait fêté justement quand mon premier livre a atteint 100 000 copies de vendues. On a décidé de faire une fête. C'était une grande conférence gratuite. Et on donnait un livre gratuit à tout le monde.
Et là, vous avez fait le lien entre le rêve prémonitoire réalisation.
Oui, bien ça, moi, je n'avais pas vu la salle avant. C'était un de mes employés qui avait tout réservé, qui avait occupé de tout ça. C'est quand je suis rentrée dans la salle 1 heure avant la conférence, j'ai dit « Oh, c'est la salle de mon rêve que j'ai eu il y a 8 ans. » Ah, ça a été un moment fort. Hein. J'étais tellement émue, il a fallu que je m'isole pour me remettre là. C'était comme si j'avais eu la chance de, dans ce rêve prémonitoire, d'avoir une petite ouverture sur le futur pour me montrer ce que je devais faire.
C'est arrivé d'autres fois après dans votre vie?
Pas clair comme ça.
Non, pas aussi clair
maintenant,
que ça.
Maintenant, depuis le temps, c'est beaucoup des inspirations que j'ai. Puis comme j'ai développé ma capacité de sentir, quand il m'arrive une nouvelle idée, là, c'est clair. Puis comme des fois, des titres de livres avec la page couverture, tout là. Mais le « wow » que je ressens en dedans là, est tellement puissant que je sais qu'il faut que je le fasse. Que c'est, je ne sais pas d'où ça vient de quelque part, mais je sens que c'est ça qui est bon pour moi, puis ça répond à un besoin.
Vous avez vérifié que c'est en connexion avec la réalité. C'est-à-dire, vous n'êtes pas dans la fabulation, quoi. Quelque chose qui correspond après à la réalité.
Oui, parce que, mais après, il s'agit juste, moi, de commencer à mettre les choses en mouvement pour que ça arrive.
Il faut travailler.
Puis, comme je suis une personne d'action, c'est facile pour moi de passer à l'action.
Vous avez toujours été une femme d'action.
Oui, toujours.
Parce que je disais que vous étiez un entrepreneur.
Oui, toujours.
Dans la présentation.
Oui.
Une chance, ce talent. Vous en avez fait quelque chose.
On arrive avec les qualités qu'on a besoin selon notre plan de vie. Moi, j'avais un plan de vie qu'il fallait que je bâtisse quelque chose. Donc, j'arrive avec les qualités qui vont avec un bâtisseur, un innovateur. J'ai plein d'inspiration, j'ai l'énergie qu'il faut, j'ai toujours l'enthousiasme.
Je reçois cet après-midi Lise Bourbeau et je rappelle qu'on parle de ce livre qui ressort ces jours. Si, écoute ton corps, c'est le premier que vous avez écrit. C'est aussi celui qui vous a fait connaître. C'est aussi celui qui a donné le nom, au fond, toute votre démarche et tous les ateliers et les formations que vous donnez depuis 30 ans.
Puis il est traduit maintenant en 22 langues.
Formidable.
ça c'est excitant, ça.
La première, les hommes et les femmes, mode d'emploi, Roselyne Fayard.
Lise Bourbeau, écoute ton corps, ça veut bien dire, au fond, s'ouvrir à une dimension plus psychosomatique. C'est-à-dire que c'était ce qui vous manquait. Vous qui étiez entrepreneur, vous étiez une femme d'action, vous l'êtes évidemment toujours, mais vous manquez peut-être cette sensibilité à l'écoute de quelque chose de plus subtil.
Je manquais le côté spirituel. J'étais très dans la pensée positive, mais dans ce temps-là, j'agissais beaucoup trop vite. T'sais, aussitôt que j'avais une idée, c'était fallait que je passe à l'action tout de suite. J'allais pas vérifier les conséquences. Puis c'était peut-être pas tout de suite, parce qu'on peut avoir des idées merveilleuses, mais ça veut pas dire qu'il faut que tout se manifeste tout de suite. Alors ça, j'ai développé ça au fil du temps. Mais
est-ce que vous étiez même un peu tyrannique avec votre entourage pour obtenir qu'on se mette au travail tout de suite?
Je vois pas. Je dirais pas tyrannique. J'étais une bonne manipulatrice.
Donc, ça veut dire quoi, ça?
Mais j'avais le don
d'obtenir.
J'ai toujours eu le don d'énergiser les autres et puis de les rendre enthousiastes. Fait que pour moi, je suis tellement enthousiaste de mes idées que quand j'en parle, ça enthousiasme les autres. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup eu d'aide dans ma vie. Beaucoup eu de gens qui sont prêts à m'aider à investir. J'ai eu des investisseurs beaucoup au début parce que je suis une bonne communicatrice.
Et vous savez mobiliser, au fond.
Puis je suis dans la vente, j'ai appris à être une bonne motivologue.
Oui.
Donc, je motive les gens. Finalement, j'ai toujours été une bonne manipulatrice, mais pour moi, c'est important que tout le monde soit gagnant-gagnant. C'est pas moi, je manipule, l'autre est perdant, puis moi, je suis gagnant.
Moi, j'appelle pas ça de la manipulation, j'appelle ça de l'influence, ce qui n'est pas la même chose.
Oui.
La manipulation, ça cherche à faire obtenir quelque chose qui ne serait pas forcément bon pour l'autre.
Oui.
Non?
Mais, je sais pas, peut-être que tu as peut-être raison, c'est sûr que j'avais beaucoup d'influence. Par contre, je me vois là, dans les débuts surtout, me dire comment je vais m'y prendre pour que celui-là, lui ou
ça.
Elle,
oui,
fasse comme je veux. Il fallait que j'y trouve une bonne raison puis qu'il y ait un cadeau pour l'autre aussi. Là.
Et alors, comment est-ce que vous avez développé cet intérêt pour la psychosomatique? C'est-à-dire qu'au fond, je veux quand même dire ceci, vous avez développé un des points forts de vos idées et de votre philosophie de vie, c'est qu'au fond, d'abord, chacun de nous est responsable de ses
vies.
C'est ça. Hein, et qu'au fond, nous avons besoin d'être conscients de ce que nous nous représentons, les idées que nous nous faisons, et faire un lien avec ce que nous obtenons.
C'est ça,
le grand clé de votre système.
Oui, parce que si on n'accepte pas qu'on est responsable, que nous créons sans cesse notre vie nous-mêmes, que tout ce qui nous arrive de l'extérieur, tout ce qui nous arrive dans notre corps, c'est toujours nous qui le créons, bien, ça serait impossible pour qu'une personne adhère à l'idée que c'est elle, avec sa façon de penser, qui s'est créée sa maladie, puis qui s'est capable de la créer, capable de la guérir.
Bon, en même temps, évidemment, c'est un peu caricatural, parce que, bien sûr que nous sommes responsables de beaucoup de choses dans notre vie, mais nous sommes aussi les héritiers de plein de choses, non?
Ouais. Oui, mais on hérite pas de la chose physique. On hérite de la façon de penser, on hérite des croyances de nos parents. Parce que c'est pour ça qu'on est attirés toutes les familles ensemble, parce qu'on a toutes les mêmes croyances à gérer. Mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé de garder les mêmes croyances toute notre vie. On
comme
a toujours
quoi, par exemple,
le choix.
Vous dites on garde les mêmes croyances. Vous pensez à quel type de croyances?
Ben, toutes les croyances qui sont associées à chaque blessure. Comme dans mon livre sur les blessures, je l'explique bien, toutes les croyances différentes de chaque blessure. Comme
pour l'injustice, par exemple.
L'injustice, par exemple, ben, c'est pas juste si on en a plus que les autres. Donc, c'est pour ça que c'est les personnes qui souffrent d'injustice qui ont de la difficulté à recevoir. Parce que là, si je reçois, là, si quelqu'un me paye un repas, faut pas que j'oublie parce que moi, il va falloir que ça va être mon tour la prochaine fois. Faut que je lui remette. Ça, c'est plein de croyances qu'on a. Puis la réalité est tout autre. Si quelqu'un m'offre de me payer un repas, c'est pas à moi à lui en payer un. Si elle me l'offre, c'est que j'ai déjà donné, déjà. Tout part de nous. Fait que c'est déjà donné dans l'univers. C'est pour ça que je le reçois. Donc, on doit juste apprendre à accepter. Puis moi, je le vois, toutes mes soeurs, maman, tout le monde, c'est toute la même blessure d'injustice. On a toutes les blessures d'injustice. Et il y a plein de choses maintenant, moi, que je ne crois plus du tout, puis que je ne vis plus en conséquence de ça, puis que je vois mes soeurs continuer à vivre comme maman le faisait, avec les mêmes croyances.
Mais quand vous dites « je ne crois plus », ça veut dire que vous avez remis en question toute votre vision du monde? Comment est-ce qu'on peut comprendre ça?
Ben, j'ai appris au fil du temps apprendre à sentir dans quoi je me sentais bien ou non. Parce qu'on ne se sent pas bien quand on se sent redevable ou qu'on ne se sent pas juste. Puis là, on se dit, oh mon Dieu Seigneur, j'ai oublié. Elle m'a donné un cadeau à mon anniversaire. Moi, je l'ai oublié. C'était, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire pour me réparer?
Je suis
une
mauvaise
personne.
On n'est pas
bien là-dedans.
Ouais.
Puis, alors, j'ai réalisé que toutes les actions que je faisais qui étaient basées sur la peur d'être injuste, la peur de pas être correct, la peur d'être égoïste, que c'est jamais bon. C'est pas bénéfique pour nous autres. C'est pas bon pour personne. C'est même pas bon pour la personne à qui on donne, qu'on donne par obligation. Parce que l'autre, elle sent que c'est pas donné vraiment par cœur. Et donc, c'est peu à peu, c'est toutes ces choses-là que j'ai découvertes au fil du temps. Mais ça m'a pris du temps. Puis j'en découvre encore. C'est pas fini, hein. Toutes ces croyances qu'on a.
Comment est-ce que vous en êtes arrivé à vraiment vous passionner pour la psychosomatique, c'est-à-dire vraiment l'incarnation dans le corps et vous faites des liens entre ce que nous pensons et comment certaines maladies apparaissent. Ce qui est quand même un peu osé de votre part, sachant que vous n'êtes pas médecin, vous n'avez pas une formation médicale quelconque, vous avez bien sûr une formation en psychologie, mais comment est-ce que vous êtes arrivé à instituer comme ça
c'est
un système qui est devenu presque, je trouve, un peu
mais qui était copié par plusieurs personnes aussi.
Oui, mais qui est aussi un petit peu systématique. Ouais. Si j'ai mal au genou, c'est que je veux pas avancer. J'ai toujours trouvé ça un petit peu un peu excessif comme analyse.
Tout me passionne finalement. Mais c'est quand moi je me suis guérie de mes problèmes physiques au fur et à mesure que je changeais ma façon de penser et de vivre, que là j'ai dit faut qu'il y ait un lien. Là c'est là que j'ai commencé ma recherche. Là on parle d'il y a 35 ans.
Ouais.
Et c'est sûr que au fil des années je découvrais toujours des choses. Et à mesure que je découvrais à quel point la création humaine est intelligente, je suis tellement émerveillée parce que quand on est malade, c'est qu'on bloque à quelque part. Alors, il y a un blocage mental, un blocage émotionnel et un blocage physique qui cause la maladie. Le blocage mental, ça veut dire qu'on croit quelque chose qui nous fait mal, qui nous empêche d'aller vers ce qu'on veut. Donc, ça bloque notre désir dans le corps émotionnel. Puis, si on n'est pas conscient de ces deux blocages, dans émotionnel et mental, bien là, le corps, il finit par nous envoyer un message à notre corps physique parce que le corps est tellement d'une grande intelligence qu'il fait tout toujours pour vivre en paix, en harmonie et pour se guérir. Hein, on le voit bien. On se fait juste une coupure. Tout de suite, tous les éléments du corps se mettent en place pour commencer à guérir la plaie. Ça se fait tout ça. C'est naturel puis c'est l'intelligence du corps. Donc, ça se fait la même chose au plan émotionnel et mental et on cherche toujours à se guérir. Alors, c'est pour ça que le message qu'on reçoit dans le monde physique a un lien avec le domaine dans lequel on se bloque au plan émotionnel et mental. Donc, à quoi servent les jambes? Les jambes nous servent à aller de l'avant. Donc, on sait tout de suite si on a mal aux jambes, c'est un lien avec soit ma façon de voir l'avenir ou soit mon travail. Parce que c'est souvent un lien avec le travail. On va aller de l'avant pour notre carrière qu'on choisit. Donc, ça veut dire qu'il y a des peurs. On n'agit pas selon nos besoins. On n'est pas dans l'amour de soi. On agit plus par peur.
Donc, vous dites, c'est toujours... Vous faites un lien, vous dites, c'est toujours en lien avec.
Toujours.
Cette systématique-là, elle peut paraître un peu réductrice.
Ben ça, c'est quand on accepte la notion de responsabilité, c'est toujours la responsabilité. On peut pas être responsable à 90 % du temps. Ça se peut pas qu'il y ait 10 % du temps que c'est quelqu'un d'autre qui dirige notre vie. Impossible. Fait que pour moi, la notion de responsabilité, c'est comme on est enceinte ou on ne l'est pas. On ne peut pas être 90 % enceinte.
Quelle différence faites-vous alors? Comment est-ce que vous nommez responsabilité et culpabilité? Parce que, évidemment, ce qui est difficile à entendre, c'est si j'ai la totale responsabilité, y compris de mon capital génétique, comment est-ce que ne pas me sentir coupable?
Oui, ben ça, c'est quand l'ego prend le dessus. Parce que l'ego veut toujours que ça soit à faute des autres. Donc là, on est porté, l'ego nous fait nous sentir coupables. Ben là, voyons, qu'est-ce que t'as là? C'est toi qui te crée ta maladie, t'as pas honte, fais quelque chose. Tu vois, il nous fait sentir mal. Donc, pour moi, la culpabilité, c'est l'endos de la médaille de la responsabilité. On se sent soit responsable ou coupable. Donc, à chaque fois qu'on se sent coupable, parce qu'on prend pas notre responsabilité, à chaque fois qu'on essaye de culpabiliser l'autre, on ne prend pas notre responsabilité. C'est un ou l'autre. C'est pour ça que dans l'atelier sur la culpabilité, on fait les deux ensemble tout le temps. Responsabilité, culpabilité. On ne peut pas les dissocier tous les deux.
Lise Bourbeau, notre invitée cet après-midi, nous parlons de toute sa démarche. Écoute ton corps. Et c'est le titre aussi du livre qui vient de ressortir aux éditions.
Oui, écoute ton corps. Maison d'édition.
On trouve dans toutes les librairies.
Édition ETC.
On trouve
ça va être partout. Ouais.
Silence, on tourne.
Lise Bourbeau, en relisant ce livre « Écoute ton corps », il y a cette dimension importante à laquelle vous venez de faire allusion, c'est nous avons évidemment tendance, mais là on a repéré quand même, à critiquer, à juger, à condamner, à rejeter.
Ah,
et au fond, une grande partie de la souffrance humaine est liée à ce comportement.
C'est ça.
Qu'il s'agisse d'individus dans les familles, qu'il s'agisse des relations de collaboration dans le monde du travail, mais qu'il s'agisse aussi des histoires politiques, de la guerre entre les pays. Nous analysons, nous jugeons, nous critiquons, nous rejetons, nous faisons la guerre et nous recommençons.
C'est ça.
Et vous dites au fond que nous avons besoin de considérer, je fais un rapide raccourci pour que vous puissiez... un petit peu enrichir cette réflexion-là. Et vous dites, nous avons besoin, là encore, de nous réapproprier notre responsabilité, c'est-à-dire de dire, dans une situation dans laquelle émotionnellement je suis impliquée, de nous poser la question qu'est-ce que je fais là-dedans ? Au fond, c'est ce que vous proposez. Or, c'est juste la question qu'on n'arrive pas à se poser quand on est en guerre avec quelqu'un.
C'est ça.
Comment vous développez
ça ? On est tellement
ça,
dans notre blessure, là, parce que c'est ça le gros problème. On vient au monde avec des blessures, puis là, on est sans arrêt bombardé par des gens, des situations autour de nous qui viennent éveiller, toucher ces blessures-là. Donc, on est toujours en réaction. Mm-hmm. Puis, on ne réalise pas que c'est à nous à guérir nos blessures. Que ce que les autres nous font, c'est parce qu'on se le fait à soi et qu'on le fait aux autres. On ne veut pas le voir, ça, notre égo. C'est pour ça que c'est rendu si moi, je dis, les humains ont baissé, beaucoup dans l'évolution.
Depuis l'homme du Cro-Magnon, vous pensez?
Oui, depuis...
Je ne sais pas s'il se posait beaucoup de questions existentielles, on ne sait pas.
Ça. Ben, on dit que ça fait des millions d'années que l'âme existe et puis on est allé en involution, finalement. Puis là, maintenant, avec l'ère du Verseau, on dit que c'est le début de l'évolution. C'est vraiment, là, on n'a plus le choix. Tu sais, on est allé en descendant, on peut regarder comme un grand V, là. Puis là, on arrive là, dans le bas du V, là, avec cette nouvelle époque là, qu'on sent déjà depuis plusieurs années, que là, l'être humain ne peut plus continuer à aller plus bas dans les guerres, puis la violence. Et puis, on regarde la télévision, ce n'est que de la violence.
Mais prenons l'exemple de la violence dans la famille. Il y a encore et toujours beaucoup de violence dans les familles. Je recevais il y a quelques mois Gérard Salem, psychiatre qui est spécialisé dans l'accompagnement des familles. Il me disait que la violence ne baisse pas, malgré plus de conscience, malgré plus d'informations, malgré plus de thérapie.
Oui.
On continue à vivre beaucoup de violence. Alors, prenons cet exemple-là. Comment, quand on est dans une situation où on subit de la violence de son conjoint, par exemple, ou des parents qui sont battus par leurs enfants, jeunes adultes, par exemple. Comment se sentir responsable de cette situation, Lise Bourbeau?
Ben, on en a régulièrement dans tous nos ateliers. On a des gens qui ont souffert d'abus sexuels, d'abus psychologiques, de violences mentales, physiques et tout. Il y en a beaucoup, beaucoup, mais nous, tout ce qu'on enseigne, c'est comment se réconcilier avec ça puis se pardonner. Parce que tant qu'on accuse l'autre, que moi, je suis malheureuse parce que mon père m'a battue, je suis malheureuse parce que mon mari me bat, il n'y a jamais rien qui change. Alors, quand la personne commence à se poser les bonnes questions, à dire, qu'est-ce qu'il y a en moi qui attire cette violence-là? Parce que combien de fois, moi, j'ai demandé, quand des fois, un petit monsieur, là, tout doux, qui a une petite voix basse, puis qui disait combien son père l'avait battu, par exemple, puis que lui, jamais qu'il a touché à ses enfants parce qu'il s'était fait battre. J'ai dit, dis-moi, au plus profond de toi, là, ça t'arrive jamais là, de voir quelqu'un, ça peut être un de tes enfants, ça peut être un voisin, puis des fois, t'aurais le goût de le planter dans le mur. Là. Il dit oui, il dit toujours. J'ai dit, tu vois, tu l'as de la violence en dedans de toi.
Oui, mais il ne le fait pas. Capable... Ça fait une sacrée différence de ne pas lever la main.
Parce que cette violence va se retourner contre lui.
Ah oui, d'accord.
Il va avoir des maladies violentes. Il va y avoir. Et puis à un moment donné, c'est ce qui fait que tout à coup, il perd le contrôle puis il tue quelqu'un. Ben, ça fait trop longtemps qu'il sortit. Mmh. Quand la soupape saute, hein, et beaucoup, beaucoup de personnes, ils vont faire des. Ils vont battre. Là. Ils ne sont plus capables d'arrêter ou bien même qu'ils tuent. Hein. On voit des drames de famille sans arrêt parce que les gens se sont trop contrôlés. Donc, quand on commence à avoir de la compassion, c'est sûr que ce n'est pas évident
pour
d'avoir
soi.
De la compassion pour la personne qui nous a battus, qui a été violent, puis dire, ton papa qui te battait, là, lui se faisait battre par son père. Oui, c'est vrai, tu as raison. Parce qu'on le sait, c'est prouvé en psychologie que c'est de famille en famille.
Heureusement, certains ne le reproduisent pas quand même. Hein?
Et puis, là, j'ai dit... Quand tu vas accepter que ton père, là, c'était juste un grand souffrant, puis quand il te battait, là, il avait peut-être l'air d'un fou, puis d'un malade, puis d'un homme qui perd le contrôle, mais il n'était pas capable de se retenir. Depuis qu'il est tout petit, qu'il espérait un jour devenir grand pour pouvoir se défendre, puis là, il devient grand, puis il s'aperçoit qu'il est comme son père, puis là, il perd le contrôle parce qu'il ne veut tellement pas être comme son père qu'il est devenu comme son père. Fait que quand il commence à avoir de la compassion, à toucher à la souffrance du papa, là, c'est le début de la guérison qui commence. Puis là, il commence à avoir de la compassion pour son papa. Il n'est pas d'accord. Hein? On n'est pas d'accord du tout. Fait que c'est ça que surtout, il faut faire comprendre qu'on peut accepter sans être d'accord du tout, du tout. Mais on accepte qu'il y a des grands souffrants sur cette planète.
Accepter la réalité.
Accepter que ça vient de loin, ça vient de plusieurs générations, ça vient de plusieurs vies. Puis que tant qu'on fait rien, tant qu'on blâme les autres, il y a rien qui change dans la vie, ça continue de génération en génération. Mais moi, je peux parler des histoires de pardon jusqu'à l'année prochaine parce que j'ai tellement entendu des belles histoires.
Lise Bourbeau, entre le moment où on réalise, on prend conscience hein, qu'on est peut-être enfermé dans un système, et le moment où on accepte, ça ne se fait pas automatiquement, c'est ça?
Non, c'est...
Comment faites-vous pour accompagner les gens dans cette prise de conscience? Ce n'est pas parce qu'on est conscient de quelque chose qu'on va cesser de le reproduire.
Oui, non. Nous, la première étape à faire, il faut que la personne s'autorise, s'accueille, s'accepte dans le fait qu'elle est comme la personne qu'elle a jugée. Ça, c'est la première étape.
Quand on se surprend à critiquer, juger, rejeter.
Parce que puis on travaille toujours avec le « être ». Alors, ton papa, tu l'accusais, tu jugeais d'être quoi là-dedans? On ne travaille pas avec le comportement. Parce qu'il y en a qui disent « Non, moi, j'ai toujours agi contraire à mon père. » Mais tu le jugeais d'être quoi, ton père? Ben, je jugeais d'être un fou, je jugeais d'être un faible, je jugeais d'être un dépendant, bon, quoi que ce soit qu'il disait. Alors, ça veut dire que toi, tu te juges de ça, puis les autres te jugent de ça. Parce que s'il traitait son père de faible parce qu'il perdait le contrôle, puis il battait sa mère, puis il battait tout le monde, lui, il se fait juger de faible parce que lui, il dit rien, puis il se laisse dominer par les autres. Ça veut dire qu'il ne s'accueille pas dans le fait d'être faible. La journée qu'il s'accueille là-dedans, il dit « Bien, c'est vrai, moi aussi, je suis faible. » Quand je suis faible, là, c'est parce que je ne veux pas créer de problème. Tu sais, il voit qu'il y a une bonne intention, finalement. Fait que là, il commence à avoir de la compassion pour lui-même. Il n'est pas méchant. Bien, son papa, c'est la même chose. Il était faible, mais il n'était pas méchant. Tu vois, c'est toute une question de réconciliation avec les autres puis de pardon de soi.
Ça prend du temps, hein?
Bien, ça dépend. Ça dépend si la personne a assez son voyage ou non. La personne qui en a ras-le-bol de vivre dans ce genre de violence, puis de un conjoint après l'autre, et puis tu sais, la violence avec ses enfants et tout, il y en a qui vont très vite quand même. Ah, moi, je vois des choses là, maintenant qu'on ne voyait pas il y a 10 ans, 15 ans.
Vous pensez que ça va plus vite? Les gens
beaucoup
sont plus conscients?
Oui, ça va plus vite. Les gens commencent à en avoir ras-le-bol de toutes ces choses.
Ben, puis il y a aussi beaucoup de connaissances qui circulent.
Oui,
hein?
Et puis ceux qui prennent leur temps, leur argent, puis leur énergie pour venir faire une démarche comme ça, c'est parce qu'ils en veulent.
Alors, vous dites, vous avez quelques pages très étonnantes sur le couple. Vous dites, au fond, que le conjoint que l'on a choisi a quelque chose à nous apprendre et que si on se sépare, par exemple, parce qu'on ne se supporte plus, parce qu'on ne peut plus rester dans cette situation, vous dites que vous interpellez en disant, c'est se poser la question de si on refuse d'apprendre ce qu'on est venu apprendre inconsciemment, on va reproduire la situation et qu'on va peut-être se recréer le même partenariat. C'est intéressant comme idée, parce que quand une situation devient insupportable, on a envie de se sauver, c'est ce qu'on fait. Aujourd'hui, on divorce facilement, on s'en va.
Ouais.
Donnez-moi un petit peu plus d'éléments sur ça. Qu'est-ce que vous voulez dire par là qu'on va reproduire la même situation?
Ben, ça veut dire que, encore une fois, dans ma nouvelle version, je l'explique un peu plus clairement que, parce que je me souviens pas, la première version, si j'écrivais surtout au niveau du être. Mais il faut toujours regarder tout ce dont je pouvais pas tolérer de ce conjoint, là, tout ce qu'il était, que j'aimais pas, faible, irresponsable, là. C'est ça que je vais devoir réapprendre avec quelqu'un d'autre. Souvent, on va l'apprendre avec nos enfants. Mais c'est sûr que combien de femmes me disent « Ben là, moi, mon père est alcoolique, mon premier conjoint était alcoolique. » Là, c'est sûr que le prochain, il faudrait pas qu'il prenne une goutte d'alcool. Elle en rencontre un nouvel homme, il ne boit pas du tout. Bon, enfin, elle le marie 5 ans plus tard, il est alcoolique. Tu sais, c'est comme, elle dit, mais qu'est-ce que je fais au bon Dieu pour m'attirer ça? Puis je dis, parce qu'il faut que tu fasses du travail sur toi. Tu sais, c'est ça toute part d'elle, tu vois. Puis là, elle, faut qu'elle accepte sa partie dépendante parce qu'elle accusait ces hommes-là d'être des grands dépendants. Mais elle voulait pas voir que, ah ben elle était dépendante des médicaments, mais c'est pas de sa faute, c'est le médecin qui disait qu'il fallait qu'elle boive, qu'elle prenne ces médicaments-là. Elle ne voulait pas voir sa dépendance aux médicaments, sa dépendance à la cigarette. Oui, mais c'est pas grave. Moi, la cigarette, c'est pas grave comme l'alcool. Oui, mais t'es dépendante. Il faut que tu acceptes ta dépendance.
Quand vous parlez comme ça, il faut que tu acceptes ta dépendance. Oui. C'est une sorte d'injonction paradoxale.
Ah, ben,
quand on dit à quelqu'un, tu dois cesser d'être ce que tu es, à l'intérieur de nous, on sent bien qu'il y a un mouvement un peu bizarre quand même.
Oui, mais c'est parce que les gens demandent, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse?
Ben oui.
Tu vois, ils viennent chez nous, ils nous payent pour avoir des réponses. Mais
vous avez des réponses pour les gens?
Ben, je le sais, il n'y a rien. Pour moi, il n'y a pas d'autre moyen que passer par l'acceptation. La journée là, que c'est on l'accueille, on n'aime pas ça, c'est pas notre préférence. Hey, tu sais que moi, j'ai tellement jugé les autres d'indépendants, puis c'est vrai, moi aussi, je suis une personne dépendante. Mais dans le fond, je suis dépendante, mais je suis pas une méchante. C'est parce que je suis pas capable de m'en passer pour le moment. Vous voyez, elle se parle, puis là, elle commence à s'accueillir, puis elle commence à avoir de la compassion pour elle. Parce que si elle le fait pas, il y a rien qui va changer. Donc, c'est ça que moi, je me sens l'obligation de leur dire, tu veux que ça change? Tu viens faire des ateliers? Tu nous payes pour que les choses changent dans ta vie, mais je te donne ta réponse. Tu me l'as demandé. Si tu ne veux pas accepter, si tu continues à accuser les autres, il n'y a rien qui va changer.
Nous sommes toujours en compagnie de Lise Bourbeau et de votre démarche et votre livre « Écoute ton corps ».
Les hommes et les femmes, mode d'emploi, Roselyne Fayard.
Lise Bourbeau, alors Écoute ton corps, c'est un livre. Bien sûr, on en reparle là parce que vous en avez écrit une quinzaine. Hein?
Non, 21.
21, j'étais encore en dessous. Il vient de ressortir donc le tout premier et c'est aussi une école de formation.
Oui,
vous avez développé tout un processus pendant ces 30
années. Oui, c'est ça, oui.
Comment est-ce que tout ça s'est mis en place? Comment est-ce que vous avez eu cette énergie? C'était quoi le but au fond?
Ben, le but c'était de partager à tout le monde des choses qui m'ont tellement aidée moi dans ma vie, puis qui, tu sais, comme là ça fait 29 ans que je suis remariée avec un autre homme, puis c'est tellement le jour et la nuit, puis pourtant Dieu sait que mon deuxième mari est pas plus gentil que le premier. Il m'aime pas plus que le premier, mais c'était moi avec mon ego puis ma rigidité qui faisait que ça allait pas
mais vous,
bien.
Vous êtes plus gentille peut-être avec le deuxième.
Oui, ben c'est pas ricochet, parce qu'on fait aux autres ce qu'on se fait à soi, hein, c'est ça. Puis enfin, ça va, enfin. Et puis c'était ça mon but premier, c'est juste de partager à tout le monde. Mais dans mon rêve, j'avais vu qu'un jour ça deviendrait international, mais j'avais aucune idée comment ça arriverait. Et c'est arrivé à suite à l'écriture des livres. Puis les livres aussi, c'était pas prévu. Pour moi, c'était pour répondre à la demande des clients qui disaient « On aimerait ça avoir quelque chose par écrit quand on quitte les ateliers, ça nous le rappellerait. » Bon, je dis « Ben, pourquoi pas? » Puis, fait que j'ai commencé comme ça à écrire des livres, mais sans penser à tout ce qui arriverait, parce que j'étais pas mal spontanée quand même. Pour moi, je suis guidée par un grand chef d'orchestre, là, puis je fais beaucoup confiance à l'univers, puis quand j'ai des idées, puis que ça fait « Wow » en dedans, puis je me sens bien à l'idée d'y aller. Puis, je suis aussi capable d'être bien, même si ça marche pas. Je dis, bon, ben, OK, on y va, on va l'essayer.
De temps en temps, ça marche pas, quand même.
Ben oui. J'ai acheté des grands centres au Québec, un ancien hôtel et tout, puis je me suis beaucoup, beaucoup endettée. Fait qu'il a fallu que je me rende à l'évidence que c'était au-delà
de mes
limites.
C'était pas ça, votre voix.
Non, c'était au-delà de mes limites, mais quand même, j'ai vécu des expériences intéressantes.
Vous vous êtes pardonné?
Ah, ben oui. J'ai tourné la page, j'ai dit, bon, ben, j'ai vécu cette expérience-là pendant 5 ans, je me suis beaucoup endettée, maintenant, il me reste juste à payer mes dettes. Bon, je commence.
Qu'est-ce que vous formez des gens de quel type de personnes vous formez? Les professionnels, l'accompagnement?
Dans notre formation professionnelle, qui est très renommée partout dans le monde, quand même, notre formation professionnelle, on forme des gens qui veulent être animateurs conférenciers, puis des gens qui veulent ouvrir leur cabinet. Je pourrais dire dans les ateliers, peut-être un tiers qui sont déjà des professionnels, qu'ils soient ostéopathes, homéopathes, on a beaucoup de médecins, des psychologues.
Qui viennent chercher un processus.
Bien, qui veulent avoir des outils additionnels dans ce qu'ils font. Et puis, les autres deux tiers, c'est monsieur, madame, tout le monde, qui veulent, surtout, il y en a beaucoup qui le font pour eux. Je dirais que 50% de la formation, ils le font pour aller plus loin pour eux. Puis l'autre, le restant, c'est parce qu'ils veulent en faire une carrière.
Lise Bourbeau, vous travaillez aussi avec une équipe, vous travaillez avec vos enfants. Comment vous voyez les années qui viennent? Parce que l'entrepreneur que vous êtes n'a pas envie de s'arrêter. Là, je vois votre sourire jubilatoire. Vous voyez la retraite
Non,
arriver?
Pas de retraite.
Non.
Je ne l'envisage pas d'un moment parce que j'ai encore tellement d'énergie et puis beaucoup de demandes. Encore hier, j'ai un email de ma fille qui me dit « Maman, je viens d'avoir une demande. On te demande en 2014 pour aller au Chili. » Bon, ouvrir encore un nouveau pays. Donc, c'est moi qui ouvre les nouveaux pays, qui fait la formation des formatrices, qui écrit des livres toujours régulièrement. Là, j'en commence un nouveau quand je reviens.
Votre fille est PDG, hein? C'est elle qui…
Oui, c'est ça. Elle a 44 ans, elle a commencé à travailler avec moi, elle avait 18 ans. Ça fait 26 ans qu'elle travaille avec moi, qui dirige tout maintenant. C'est le cadeau du ciel. Puis son mari dirige ma maison d'édition. Donc, c'est un bonheur de travailler avec eux autres tous les deux parce que moi, je peux me permettre de faire juste ce que j'aime. C'est pour ça que je vois pas quand je
vais prendre une retraite. Vous voyez pas le temps passer. Non. Je me dis, mais votre vie de femme, comment est-ce qu'on vit à côté de vous quand on est le mari, le compagnon d'une femme qui est un chef d'entreprise,
oui,
qui est un leader,
oui,
et sur le plan relationnel?
Ben,
comment vous avez
j'ai une grande vie sociale quand même. Hein? Comme là, dans le moment, je suis en train de passer 4 jours chez une grande amie à Lausanne. Je me promène, je prends le temps, hein, de visiter des amis. Chez nous, je fais toujours la fête. C'est la grande maison familiale chez nous au Québec. Fait que en revenant, il y a une grosse fête là, d'organiser dans 10 jours. Alors, ce que j'entends de mes amis, mes enfants, mes frères et ça, c'est que je suis née inspiration pour eux autres, parce que je suis bien organisée quand même, et puis j'ai réussi à bien
conjuguer
vivre.
Les oui, plusieurs vies.
Oui, puis conjuguer ma vie familiale, ma vie intime, ma vie, oui, tout ça, puis mon travail, tout ensemble. Oui.
Ça veut dire qu'il vous a fallu avoir une relation avec un homme qui a accepté de vous suivre, alors?
Oui, 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 oui.
C'est vrai?
Oui.
Il n'y en a pas beaucoup. Vous l'avez trouvé, celui-là. Vous l'avez trouvé. Vous l'avez.
Oui, ben ça faisait partie, je pense, de ce que j'avais besoin. Parce que mon premier mari était pareil. Il m'aidait beaucoup. Je travaillais dans la vente. J'étais super occupée quand je travaillais dans la vente. 7 jours par semaine. Mais on avait une belle vie sociale aussi. On allait danser. Je finissais mes réceptions à 11h le soir. Puis il venait me rejoindre. On allait danser.
C'est ça, votre équilibre. Hein? C'est qu'au fond, vous ouais, n'êtes pas seulement une professionnelle. Avec une brillante carrière, mais vous prenez soin de vos liens.
Oui, oui. Puis je vais chez l'esthéticienne régulièrement, me faire coiffer, faire des massages. Tu sais, je prends soin de moi aussi quand même.
De quoi vous êtes la plus fière, Lise Bourbeau, pour fêter ses 30 ans?
La plus fière, c'est d'avoir créé une école puis un enseignement que même si moi je disparais demain, va continuer. Parce que j'ai réussi à ce que les gens viennent faire des ateliers puis veulent acheter les livres, pas pour Lise Bourbeau, mais pour le contenu, pour ce que j'enseigne. Puis maintenant, je suis très heureuse de voir que même si c'est une de mes formatrices qui donne un atelier, les gens ne se laissent jamais arrêter. Ils diront pas « Ah ben moi, j'y vais pas parce que c'est pas Lise Bourbeau. J'entends plus jamais ça. » Mm-hmm. C'est sûr que quand c'est moi qui donne un atelier, ça attire plus de monde. Parce qu'il y a des gens qui, ça fait des années qu'ils lisent mes livres, puis ils m'ont jamais vu. Et puis moi, je ferais pareil, parce que si j'aime un auteur, j'ai hâte de les voir un jour. Mais je suis contente de ça, ouais.
Merci infiniment, Lise Bourbeau. Je rappelle donc, Écoute ton corps, il ressort hein, ces jours-ci.
Oui.
On peut le trouver dans toutes les librairies, aux éditions ETC. Merci beaucoup, Lise Bourbeau. Bon retour au Québec.
Ben, merci beaucoup, Roselyne.
Merci.
Ville des fêtes aux matins indécents qui dévoile ses rues à des étoiles tombées. L'espace de la nuit émeuve quelques ombres tardives.